En Luc 9, 23, Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Dans la majorité des autres versets des évangiles où Jésus parle de la croix à ses disciples, il voulait dire qu'ils devaient être prêts à mourir pour leur foi, littéralement, comme lui-même allait devoir le faire. Mais ce texte-là est le seul qui précise qu'on doit porter la croix chaque jour. Comme on ne peut pas mourir physiquement tous les jours, il est bien évident que la croix en question ici, dans ce passage-ci, a un sens figuré. Il s'agit de la crucifixion spirituelle ou du renoncement aux éléments charnels qui sont en nous, autrement dit. Maintenant, pour renoncer à la chair et au péché, Dieu va devoir nous imposer la discipline de la croix. Si notre désir, c'est vraiment de ressembler à notre Sauveur, on va être étonné des chemins où il va nous faire passer pour nous former. C'est George MacDonald qui a dit « Les afflictions sont l'ombre des ailes de Dieu ». Les circonstances adverses sont très, très souvent des appels de Dieu à mourir à nous-mêmes puis à être plus saints. Beaucoup de situations adverses ont une grande valeur sanctifiante. L'adversité est souvent la main invisible de Dieu. Avant d'être croyant, on avait l'habitude de fuir ou de combattre tout ce qui nous contrariait. Mais si on veut faire des progrès dans les voies spirituelles maintenant, on va devoir user de discernement et reconnaître les croix que Dieu place sur notre route et apprendre à les mettre à profit. La rébellion, c'est de l'autodestruction, spirituellement parlant. Le croyant rebelle à la croix va voir paralyser lentement sa vie spirituelle et sa relation avec Dieu va se détériorer. La croix peut se présenter à nous autres sous toutes sortes de formes. En fait, il peut y avoir autant de croix qu'il y a de choses désagréables à vivre dans nos vies. Mais heureusement pour nous autres, tout n'est pas nécessairement une croix. Je veux dire que c'est vrai que la croix est une expérience désagréable pour la chair, mais toute expérience désagréable qui nous arrive n'est pas nécessairement une croix que Dieu nous demande de porter non plus. Je vais faire ça bien clair avant de commencer. J'ai pas envie qu'en terminant d'écouter ce message-là, le diable commence à vous lier puis à vous dire que Dieu ne veut pas que vous essayiez de changer quoi que ce soit dans votre vie puis d'accepter absolument tout. C'est pas ça du tout. Il y en a suffisamment comme ça de pauvres chrétiens qui vivent leur vie chrétienne pliée en deux sous toutes sortes d'obligations imaginaires. On va y revenir un peu tantôt à ça. La croix n'est pas seulement la façon d'être sauvé, mais c'est aussi une façon de vivre pour le chrétien. Le christianisme entier est une institution sacrificielle. Regardez dans tous les domaines de la vie chrétienne que vous voudrez, la volonté de Dieu implique toujours des sacrifices. La croix travaille de deux façons. Premièrement, elle travaille à nous faire renoncer à faire notre volonté charnelle. Deuxièmement, elle travaille à nous faire accepter d'accomplir celle de Dieu. Il y a toujours une croix derrière la volonté de Dieu. S'il n'y en a pas, posons-nous des questions. Si on croit qu'on est dans la volonté de Dieu, puis qu'on trouve tout facile, là, bien posons-nous de sérieuses questions. Notre chair trouve graduellement la mort sur le chemin de la volonté de Dieu. En tout cas, ça devrait être comme ça que ça marche. Dieu bénit le croyant spirituellement, mais pour ça, Dieu va être souvent obligé de maltraiter sa chair, par exemple. En psaume 105, 17-19, il est écrit, « Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. » Dieu aurait pu envoyer Joseph en Égypte d'une autre façon que ça, vous ne pensez pas? Il aurait pu simplement lui parler, comme il parlait aux autres prophètes, puis lui dire, « Joseph, lève-toi, puis va en Égypte, c'est sa vie. » La vie du pauvre Joseph aurait été drôlement plus simple. Quelle souffrance ce pauvre Joseph se serait sauvé. Mais voyez-vous, la volonté de Dieu, c'est pas toujours de nous épargner de la souffrance. C'est encore une fausse conception de Dieu et du christianisme. La souffrance façonne l'homme et lui enseigne des leçons très profondes, puis qu'il pourrait absolument pas apprendre d'une autre façon. Le monde, c'est l'école de Dieu. La souffrance, c'est notre professeur. En fait, la souffrance ne fait pas seulement enseigner des choses, mais elle change les gens, ce qui est mille fois meilleur. Tout ce qui est arrivé à Joseph a été voulu de Dieu dans le but de le former spirituellement. Dieu a envoyé Joseph en Égypte à sa manière à lui, c'est-à-dire par le plus dur, le plus étroit, mais le meilleur des chemins, comme l'a dit Richard Toupin dans une de ses chansons. Jésus nous a lavés dans son sang, mais il nous rince maintenant dans nos larmes. Quelqu'un a dit, « Par la prospérité, Dieu éprouve notre gratitude. Dans la pauvreté, il éprouve notre contentement. Dans le malheur, il éprouve notre soumission. Dans la noirceur, il éprouve notre foi. Dans la tentation, il éprouve notre fermeté. » Fin de citation. Beaucoup, beaucoup de prédications mettent l'emphase sur la vie de Jésus-Christ, à l'œuvre, à l'intérieur de l'Église ou du croyant. Je loue Dieu pour ça, évidemment, mais oublions pas, par exemple, la mort de Jésus désire également faire un ministère à nous autres, puis ça, c'est une vérité tout aussi importante, mais qu'on n'entend pratiquement jamais parler. Tout ça, c'est en grande partie la faute de cette espèce d'évangile de la prospérité là, qui nous vient des États-Unis, puis qui a littéralement éliminé la croix du christianisme. Maintenant, la vérité, c'est qu'à cause de notre incorporation en Jésus-Christ, on a non seulement l'immense privilège de participer à la vie de notre maître, mais avant tout, à sa mort. Puis ça, c'est pas une mauvaise nouvelle, mais au contraire, une bénédiction, nous dit Paul. C'est en 1 Corinthiens 10, 16 que Paul dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sein de Christ? » Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? On voit la bénédiction reliée avec le sang, là. Ce verset-là implique forcément de la souffrance à quelque part dans la vie chrétienne. Mais Paul nous dit qu'il y a une bénédiction en même temps là-dedans. En Philippiens 3, 10, 11, Paul parle clairement de la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Toute souffrance, si on y est docile, nous propulse vers une spiritualité toujours plus profonde. Maintenant, une des croix, par exemple, qui peut être dans la volonté de Dieu pour nous autres qu'on porte, c'est la croix du travail. À cause d'un problème de paresse, il y en a pour qui le travail est une croix que Dieu va leur demander de porter. À l'inverse, il y en a d'autres de nature beaucoup plus active qui trouveraient au contraire le manque de travail comme une situation intolérable, puis qui serait une croix pour eux autres. J'ai vu ça. Dieu peut mettre ces gens-là dans l'obligation de ralentir pour les porter à s'intéresser davantage au royaume de Dieu. Alors, on doit apprendre à bien connaître le caractère de notre chair pour pouvoir discerner où Dieu veut travailler dans notre vie. Mais de façon générale, l'humanité a été condamnée à travailler à la sueur de son front. Les croyants, encore plus que les autres, doivent accepter cette discipline du Seigneur puis s'efforcer de ne pas regimber contre sa volonté, en murmurant tout le temps contre le job ou contre leur boss, comme les païens qui sont rebelles. Le travail est une croix que Dieu a placée sur le dos de l'homme pour que ça concoure à humilier sa chair rebelle. Dans le fond, c'est un service que tu nous rends. Le sacrifice que l'homme fait en travaillant le brise et le rapproche donc de Dieu. David a dit quelque part que le sacrifice qui est agréable à l'Éternel est un esprit contrit et brisé. On doit envisager le travail comme un exercice spirituel sanctifiant. On peut faire de ces sacrifices-là de belles occasions de plaire à Dieu, vous savez. Par une courte prière, là, prenons l'habitude d'offrir notre journée à Dieu avant de partir, puis après en être revenu aussi. Je ne parle pas de ça pour rien, vous savez. C'est un domaine où j'ai beaucoup de difficultés moi-même. Puis Dieu m'a beaucoup parlé, m'a enseigné ces choses-là, puis ça m'a beaucoup aidé. Je sais que plusieurs d'entre nous devraient vraiment s'efforcer de faire de leur travail un sacrifice spirituel et non une simple routine. Au lieu d'en faire un sujet de frustration et de murmure, on peut faire de notre travail quelque chose de vraiment agréable à Dieu. La rébellion alourdit tout fardeau. Celui qui se rebelle contre son travail rend son travail 10 fois plus pénible. Celui qui se rebelle contre sa maladie rend sa maladie 10 fois plus pénible. La rébellion rend tout plus difficile. À l'inverse, la docilité et l'acceptation rend tout tellement plus facile. L'irritation aide la rébellion. L'irritation est un sentiment qui confirme la présence de rébellion dans notre cœur. C'est quelque chose que le Seigneur désire vraiment qu'on mette sur la croix dans nos vies à tous. Rejetons la rébellion. Avant de nous rendre à notre travail, par exemple, prenons l'habitude de l'offrir à Dieu comme une offrande de nous-mêmes. Demandons-lui de nous aider à l'accomplir avec la meilleure attitude possible. Disons à Dieu que même si c'est difficile, bien qu'on accepte quand même les désagréments de notre travail, puis qu'on lui offre tout ça comme un sacrifice spirituel, un sacrifice d'obéissance et de soumission. Consacrer sa vie à l'évangélisation ou à n'importe quel autre ministère, c'est pas la seule forme de consécration qui existe, vous savez. On peut vraiment faire de notre travail séculier, de nos tâches ordinaires de tous les jours, quelque chose de très beau aux yeux de Dieu, puis qu'il soit tout aussi spirituel que n'importe quel don ministère. On va parler un peu plus des sacrifices, j'en ai fait allusion là, Peut-être que ça l'a choqué un peu l'esprit de quelques-uns, alors je vais m'expliquer. Maintenant, à cause du sens là, qu'a donné le catholicisme au sacrifice méritoire dans le passé, les croyants évangéliques craignent ce mot-là parce qu'il est pour eux autres synonyme de salut par les œuvres. Mais faire des sacrifices pour l'amour de Dieu est une doctrine entièrement biblique, par exemple. Certains sacrifices peuvent véritablement être spirituels, nous dit l'Écriture. C'est notre façon d'envisager le sacrifice qui fait toute la différence. Les sacrifices sont bibliques du moment qu'on les offre comme une action de grâce. Et non comme quelque chose de méritoire, évidemment. J'espère que c'est ce que me fait bien comprendre, là. En Luc 1, 24, ça dit, « Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Regardez bien ça. Moi, je suis persuadé qu'Élisabeth avait une envie folle d'aller annoncer la nouvelle qu'elle était enceinte à tout le monde immédiatement. Mais elle a eu la pensée de remercier d'abord le Seigneur d'une façon bien spéciale. Élisabeth se cacha, dit l'Écriture. Se priver de la joie d'annoncer cette grande nouvelle était tout un sacrifice pour elle, j'en doute pas une seconde. Mais c'était un sacrifice spirituel. C'était sa façon à elle de rendre grâce. Élisabeth n'a pas fait ce sacrifice-là pour mériter quelque chose, mais pour remercier Dieu de quelque chose, ce qui est très différent. Comme les Juifs de l'Ancien Testament qui se privaient de 10% de leur récolte annuelle pour les donner aux pauvres, Élisabeth a pris 5 mois de joie sur 9, puis elle les a offerts au Seigneur en guise de remerciement. Même chose pour les sacrifices d'animaux que Dieu demandait au peuple. Pour les gens qui vivaient sous l'Ancien Testament, je peux vous dire que prendre un bœuf dans son troupeau puis l'offrir en sacrifice, c'était loin d'être gratuit, vous savez. C'est cher, ça. Maintenant, il n'y a jamais été dans la pensée de Dieu que les sacrifices de l'Ancien Testament soient offerts avec l'idée de gagner du mérite devant Dieu. Les sacrifices étaient bien au contraire destinés à faire sentir à l'homme que pour être justifié, il devait s'appuyer sur les souffrances de quelqu'un d'autre, sur un pauvre animal, par exemple. Mais le fait est que ça représentait un grand sacrifice pour un homme que d'obéir à la loi et offrir son précieux bétail sur un autel. On vient au sacrifice du travail maintenant. Lévitique 2, 14 à 16 nous dit, « Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux rôtis au feu et broyés comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus, et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. » Bon, cette offrande-là était composée des fruits de la terre, résultat du travail de l'homme. L'huile et l'encens sont probablement la figure de la bonne attitude que l'homme devait avoir en offrant le sacrifice de son travail à Dieu. L'huile est le symbole de la douceur et de la docilité. Nous autres aussi, on est appelés à mettre de l'encens sur notre travail, de façon à ce qu'il devienne une offrande d'agréable odeur à Dieu. Le croyant doit s'efforcer de travailler de façon à ce que son travail soit comme l'encens qui dégage une odeur spirituelle agréable à Dieu. En parlant du travail, encore, Paul a dit en Éphésiens 6, 7, « Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. » Paul nous rappelle ici qu'on doit envisager notre travail séculier, non comme une tâche ordinaire, mais bien comme un véritable service divin. Toute tâche peut devenir un sacrifice et un parfum devant Dieu, s'il est fait dans cette optique-là et accompli de bon cœur. En Hébreux 13, 16, la Bible emploie l'expression « sacrifice spirituel ». Un sacrifice ordinaire, c'est une souffrance qu'on s'impose nous-mêmes pour se mériter quelque chose. Un sacrifice spirituel, c'est une souffrance que Dieu nous demande d'accepter volontairement par amour pour lui et qu'on lui offre. La différence est énorme. C'est cette notion-là de sacrifice spirituel est liée au christianisme tout entier, dans le fond. Là, je reviens un peu à ce que je disais au début. Il ne faudrait pas non plus tomber dans le piège de l'ennemi encore une fois, puis se mettre à croire, par exemple, que votre présent travail, ou que tout ce qui est douloureux dans votre vie, pesant et lourd, vient de Dieu, et puis qu'on est obligé de le supporter. L'ennemi peut prendre un réel plaisir à nous écraser sous le fardeau d'un sentiment d'obligation à porter notre croix, entre guillemets, alors qu'il ne s'agit même pas d'une croix, des fois, que Dieu nous demande de porter. La Bible nous dit de rejeter tout fardeau, au contraire, c'est-à-dire de rejeter tout sentiment par lequel on se sent lié ou obligé à quelque chose par crainte de perdre la faveur de Dieu. Ce genre de fardeau-là ne vient jamais de Dieu. Tout n'est pas une croix que Dieu nous demande de porter. Par exemple, en 1 Corinthiens 7, 21, Paul conseillait aux esclaves chrétiens de son époque de regarder l'opportunité de devenir libre comme un don de Dieu, comme une chance, quand il y avait un moyen de le faire légalement, évidemment. Alors, porter sa croix ne signifie pas d'endurer des affaires qu'on n'est simplement pas capable d'endurer. Laissons pas l'ennemi nous lier non plus. Alors, dans la prière plutôt, puis demandons à Dieu de nous éclairer puis de savoir si ce qui nous afflige là fait partie de notre croix ou si c'est simplement un fardeau de l'ennemi qu'on doit combattre et repousser. Dans ce cas-là, ce ne sera pas le moment d'accepter, mais au contraire, de résister à ce qui nous afflige. Bon, par exemple, il y en a qui parlent trop. Un autre exemple, c'est naturel chez eux. Alors, retenir leur langue peut être une des croix que Dieu leur demande de porter. D'autres sont au contraire trop réservés, trop timides, puis ils répugnent à dire ce que Dieu met dans leur bouche quelquefois, puis ils choisissent de se taire alors qu'ils devraient parler. Alors, leur croix à eux autres, c'est d'accepter la douleur qui leur en coûte d'ouvrir la bouche quand c'est le temps. Il y a aussi une croix derrière chaque don spirituel authentique. Les croyants qui ne manifestent aucun don après plusieurs années de vie chrétienne sont très souvent de ceux qui ont répugné généralement à obéir quand Dieu leur demandait de faire ou de dire quelque chose. Ils n'ont pas porté la croix de l'obéissance. Alors Dieu n'a jamais pu les employer comme il aurait voulu, ou comme ils auraient pu l'être. Dans son amour, Dieu ne nous fait pas de reproches, mais après un certain temps, l'Esprit est bien obligé d'aller essayer d'utiliser quelqu'un d'autre. On fuit l'obéissance parce qu'on pense qu'on va perdre quelque chose alors que Dieu désire, au contraire, nous faire connaître une expérience merveilleuse. L'obéissance nous remplit du Saint-Esprit et d'un sentiment de satisfaction, de bénédiction, tandis que la désobéissance nous vide de l'Esprit, toujours un peu plus. Il y a aussi la croix de l'humiliation. Ça englobe beaucoup de choses. La seule chose qui puisse mettre l'orgueil à mort, par exemple, dans la vie d'un homme, c'est l'humiliation. L'apôtre Paul a reçu une écharpe pour l'empêcher de s'enorgueillir. On sait que Paul a souvent été outragé et méprisé par les Juifs et même par des croyants. Devoir défendre son ministère devant les croyants de ses propres églises devait sûrement être un sujet de tristesse et d'humiliation pour lui. Être à plusieurs reprises battu publiquement durant ses croisades d'évangélisation devait être également très humiliant. Être jeté en prison, traité comme un malfaiteur, comme un rebut, lui qui avait l'honneur d'avoir une citoyenneté romaine, devait aussi être très humiliant, cette situation-là. Lui qui était auparavant un membre respecté du Grand Sanhédrin, un homme admiré par toute sa communauté, puis maintenant ses propres confrères ne le reconnaissaient même plus, puis tentaient même de le tuer. Toutes ces choses-là, additionnées les unes aux autres, devaient sûrement avoir un effet très humiliant dans sa vie tout entière. Mais Paul nous dit que ces choses multipliaient la grâce de Dieu dans sa vie. Il faut qu'on réalise que tout ce qui est humiliant pour la chair est toujours bon pour le spirituel. Il y a aussi une croix sous le ministère. En 2 Corinthiens 11, 21, Paul a encore écrit « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Bon, toute souffrance qui fait partie de notre service pour le Seigneur fait fonction de croix et met notre chair à mort. Le jeûne, par exemple, accomplit une œuvre aussi d'humiliation et d'affaiblissement de la chair. Cet affaiblissement-là rend le croyant plus sensible à la grâce et plus réceptif à la douce voix de l'Esprit. Le jeûne peut servir à accroître notre docilité, notre soumission envers la volonté de Dieu dans une situation donnée. En Philippiens 2,17, Paul a écrit « Je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi. » Son ministère était un sacrifice, nous dit-il. Mais il ne s'arrête pas là. Il ajoute « Même je m'en réjouis. » Chez les païens, la libation est une sorte de sacrifice. Le type qui offrait une libation se plaçait devant un autel. Il prenait une coupe de vin ou de lait. Il en prenait une petite gorgée, puis il versait le reste par terre devant son Dieu. Bon, à mon sens, quand Paul disait qu'il servait lui-même de libation, je pense qu'il voulait dire qu'il vivait très peu pour lui et qu'il se sacrifiait beaucoup pour l'Église. Il voulait dire que d'un point de vue humain, ses dépenses d'énergie pour le royaume de Dieu étaient beaucoup plus grandes que ses résultats en réalité. À beaucoup de reprises, quand Paul entrait dans une ville, vous savez, il prêchait à une foule. Là, il se faisait persécuter puis il quittait la ville souvent avec seulement une famille qu'il avait amenée au Seigneur. Tout le ministère de Paul évoluait sous le principe de la libation. Nous autres aussi, quand on calcule les efforts, le renoncement, l'argent, puis le travail qu'on met des fois à l'œuvre de Dieu, puis qu'on les compare avec les résultats qu'on a, des fois on a envie de tout flanquer ça là, pas vrai? Mais il faut comprendre qu'aux yeux de Dieu, c'est notre obéissance qui a le plus de valeur, et non nos résultats proprement dit. Du succès, puis des résultats, soit Dieu peut en donner à des poires s'il veut. Vous savez ça, hein? Le succès ou l'insuccès, dans notre ministère, ça ne veut rien dire du tout. Sentir la faveur de Dieu sur nos efforts, sentir la faveur de Dieu sur nos échecs, même quelquefois, ça c'est quelque chose. C'est quelque chose qui compte devant Dieu. Un vrai ministère va toujours être bâti sur le principe de la libation. On doit accepter ça. Les efforts et les résultats d'un ministère sont très, très rarement proportionnels. Il y a des exceptions à ça, mais je pense que la norme, c'est qu'on va devoir tous accepter de faire beaucoup plus d'efforts qu'on va avoir de résultats. C'est comme ça que ça marche. On doit connaître ce principe-là, puis surtout accepter le sacrifice que nous impose notre ministère. Sinon, on risque de développer une amertume là, qui risque à son tour de nous arrêter ou de nous faire beaucoup de mal. La croix s'applique à notre vie de prière aussi. C'est difficile des fois de trouver la face de Dieu dans la prière. C'est pénible de devoir prier longtemps, quelquefois, avant d'être béni et enrichi spirituellement. Mais ça ne devrait pas nous décourager parce que tout ça, c'est parfaitement naturel, encore une fois. À maintes reprises, les Écritures nous exhortent à chercher la face de Dieu. Si ça dit qu'il faut la chercher, c'est évident que ça sous-entend certaines difficultés. Que ça nous plaise ou non, il y a un élément de sacrifice dans la prière, une sorte de mort à nous-mêmes, qu'on doit souvent expérimenter, avant de pouvoir commencer à être édifié. Maintenant, comme autre croix, il y a aussi les défauts de personnalité que l'on possède. Une nature dépressive, une trop grande sensibilité ou la timidité peuvent être des choses humiliantes pour le croyant et constituer une croix pour lui dans sa vie. Puis si on fait partie de cette catégorie-là, il y a peut-être quelque chose qui est temps qu'on sache une bonne fois pour toutes. Dieu nous a jamais promis de restaurer notre chair, mais au contraire de la détruire, selon 2 Corinthiens 4,16. La timidité est vraiment une croix à porter pour celui qui l'est, il le sait bien. Il faut toujours combattre ça partout où on va, les gens la remarquent quand même, ça nous humilie, mais finalement ça nous sanctifie parce que c'est une loi dans le royaume de Dieu. Dieu donne de la grâce aux humbles. Comme on peut voir, il y a une multitude de choses puis de situations qui peuvent constituer une croix pour le croyant. Laissez-moi en nommer encore quelques-unes là, bien rapidement. Ça peut être certains croyants avec lesquels on a incompatibilité de caractère dans l'Église. Dieu peut nous demander de porter la croix de nos différences, puis à travers ça, nous rendre plus conciliants et plus ouverts d'esprit. Appartenir à une Église locale qui ne fonctionne pas exactement comme on souhaiterait peut faire partie de la croix que Dieu nous demande de porter aussi. Ne pas avoir de conjoint est une lourde croix à porter pour certains célibataires. Ou en avoir un qui a un caractère très différent du nôtre, ça peut être une autre croix. Notre patron ou les gens avec qui on travaille peuvent aussi avoir un effet mortifiant. Être pauvre peut être difficile à accepter également et constituer une croix pour quelques-uns. Le fait que Dieu nous ferme les portes puis nous empêche d'entrer dans le ministère trop tôt peut être une autre croix. Être soumis à nos parents si on est un enfant, aller à l'école avec toute la soumission que ça implique à différents niveaux est une croix que les enfants croyants ont à porter. Être soumis à notre mari, si on est une femme mariée, c'est une croix. Être enseignable vis-à-vis de notre femme en tant que mari, tout ça, c'est des croix que les chrétiens ont à porter. Résister à la tentation, c'est une autre croix. Les différentes situations, les circonstances adverses qui nous irritent sont des croix aussi en réalité, etc., etc., etc. En fait, la liste n'a pas de fin. Tout dépend de notre situation personnelle. On va s'attarder maintenant un peu sur la croix du mariage. Le mariage, surtout dans les premières années, implique de nombreuses frustrations. L'être humain est sous plusieurs rapports semblables à un compresseur d'air. Il refoule des tas de choses qu'il va falloir tôt ou tard évacuer, d'une façon ou d'une autre. Mais beaucoup de jeunes couples évacuent leurs frustrations de la mauvaise façon, ce qui se traduit souvent en querelle, en colère, en violence même, en séparation ou en divorce. La frustration est toujours charnelle, peu importe les raisons qui l'ont provoquée. Il faut savoir ça. Un croyant qui se marie un peu vieux, puis qui est habitué à vivre dans le célibat, là, va vivre encore plus de frustration à l'intérieur de sa nouvelle vie de couple. faut pas se faire d'illusions. La frustration doit être vaincue de la même façon que tout le reste dans la vie du chrétien, c'est-à-dire par la crucifixion, ou plus précisément par un renoncement à l'égoïsme en nous qui a causé la frustration et par un changement d'habitude de vie. Accepter de mourir à nous-mêmes par amour pour notre conjoint, c'est à ça que Dieu nous appelle. Il est bien évident que les deux conjoints doivent porter leur croix dans ce sens-là s'ils veulent pouvoir devenir une seule chair et avoir un mariage heureux. Pour rester ensemble, en guillemets, ça en prend un des deux qui se renonce. Mais pour avoir un mariage heureux, il faut que les deux acceptent de se renoncer. S'il y en a juste un des deux qui porte sa croix, les difficultés de l'autre vont doubler, c'est mathématique. Il va se ramasser avec deux croix à porter au lieu d'une. Puis deux croix à porter, il n'y a personne qui peut faire ça facilement. Ça risque toujours de devenir une occasion de chute. Réalisons ça. Alors, il est extrêmement important que les deux conjoints portent leur propre fardeau, comme dit l'Écriture. Le mariage implique forcément du renoncement, par lequel on est appelé à changer puis à s'adapter. C'est comme ça qu'on devient une seule chair. Passons les intérêts de notre conjoint avant les nôtres autant que possible, autant qu'on peut. Si on refuse d'accepter l'élément de sacrifice qu'il y a dans le mariage, on peut être sûr que notre mariage ne marchera pas. L'homme fait fonction de papier sablé pour la femme, puis la femme fait fonction de papier sablé pour son mari. Quand on veut ajuster deux pièces de bois ensemble, c'est un peu ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on devient une seule chair. Puis il n'y a jamais eu aucun couple au monde là, qui a réussi à devenir une seule chair la première journée de leur mariage. Hein? Il n'y a rien que dans les films qu'on voit ça. Le mariage, c'est l'union de deux personnes qui ont pris l'engagement de travailler à renoncer à eux-mêmes pour l'autre, à chaque fois que ça va être nécessaire en cours de route. Si les conjoints refusent de porter leur croix, c'est pas un mariage qu'on a, mais deux égoïstes frustrés qui vivent ensemble dans la même maison. Autrement dit, c'est une bombe à retardement. Notre bonheur en mariage dépend pas seulement de la personne qu'on choisit, mais surtout du pourcentage de nous-mêmes qu'on est prêt à sacrifier pour l'autre. Les conjoints vont devoir renoncer à certaines habitudes de vie ou les modifier pour ressembler plus à l'autre. Si les deux conjoints font les ajustements qu'il faut, eh bien, au fil des années, la femme va ressembler de plus en plus à son mari, puis le mari va ressembler de plus en plus à sa femme. Ils vont même emprunter certains traits de caractère l'un de l'autre, certains goûts, certains intérêts. Ils vont emprunter la même façon de voir les choses dans plusieurs domaines. Ils vont apprendre à fonctionner ensemble. C'est ça, devenir une seule chair. Pour vivre ensemble, on est obligé de changer ou d'exploser. C'est la stricte vérité. J'aimerais ça vous mentir, j'aimerais ça que ce soit plus facile, mais devenir une seule chair, c'est au moins 10 ans de travail au départ. Ceux qui projettent de se marier sont mieux de se rentrer ça dans la tête tout de suite, parce que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il y a toujours certains défauts de fabrication là, dans le caractère de notre conjoint, des choses qui nous contrarient et qui nous irritent. L'ennemi de Dieu adore nous souligner les défauts de notre conjoint. Je suis convaincu que de nombreux démons font même ce travail-là à plein temps dans les foyers aujourd'hui. Leurrons-nous pas. Il n'y a pas seulement le Saint-Esprit qui exerce un ministère dans la vie des chrétiens. Les démons en exercent un aussi. Mais plus on va avancer dans les réalités du royaume de Dieu, plus les défauts de caractère de notre conjoint vont devenir des détails négligeables. Ils vont perdre de l'importance, puis on va sauver bien des querelles stupides. Apprenons à maturer, puis à pas accorder une importance exagérée à des choses qui n'en ont pas tant que ça en réalité. Il n'y a rien de plus beau que le mariage, quand on se donne la peine de souffrir un peu pour le rendre agréable. C'est mon expérience personnellement, puis je prie de tout cœur que ça devienne la vôtre un jour également, si ce n'est pas déjà fait. Le but ultime du christianisme, c'est de nous rendre semblables à Dieu. Et le mariage est, entre les mains de Dieu, un outil de sanctification de premier choix. Il n'y a pas de meilleur endroit que les cadres du mariage pour développer en nous les qualités de Dieu. Que ce soit la patience, le pardon, le renoncement de soi, l'amour inconditionnel, puis toutes les autres vertus de Dieu, il n'y a pas mieux que le mariage pour nous aider à développer ça. Avez-vous déjà pensé à ça? On apprend très exactement à être avec notre conjoint ce que le Christ est présentement avec son Église. Le but ultime du mariage est donc de rendre l'homme et la femme semblables à Dieu, plus semblables à Dieu. En acceptant les contraintes du mariage, on devient forcément de meilleurs êtres humains. Le mariage est le meilleur terrain d'entraînement pour atteindre la sanctification, la sainteté. Le mariage est la première institution de Dieu sur la terre. Et même si beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, je crois sincèrement que par le mariage, Dieu peut sanctifier les croyants plus que n'importe quoi d'autre, même plus que leur vie dans l'Église. On va changer de sujet un petit peu. J'ai dit tantôt que la dépression était aussi une croix. Mais on va parler maintenant des bienfaits qui peuvent ressortir de la dépression. Là, je suis sûr que je viens d'avoir l'attention de quelques-uns. Comment quelque chose de bon peut-il sortir d'une dépression? Vous allez dire, ben laissez-moi vous en parler. Beaucoup d'auteurs ont écrit des livres sur la victoire sur la dépression. Hein? La victoire sur la dépression. On nous décrit les causes, premièrement, puis les misères du pauvre dépressif, comme s'il ne les savait pas déjà. On essaie de lui donner l'espérance qu'il peut redevenir comme avant, puis on lui dit que Dieu peut et veut le délivrer de son état, puis le ramener comme avant. Donc, je ne dis pas qu'on ne doit pas essayer, qu'on ne doit pas avoir l'espérance d'aller mieux. Au contraire, c'est possible de remonter la pente dans une certaine mesure. Mais il faut être réaliste aussi. Je veux dire, l'Écriture dit, « Un espoir différé rend le cœur malade. » Quand on croit en quelque chose que Dieu ne nous a pas promis, on risque d'être très amèrement déçu. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas chercher la guérison. Ça se peut que Dieu veuille faire éclater sa puissance en nous. Guérissant de ça, j'ai déjà vu ça. C'était miraculeux, c'était merveilleux. Mais c'est des exceptions. La plupart du temps, on va devoir accepter notre croix, puis accepter le fait qu'il va falloir lutter contre cette faiblesse de caractère-là toute notre vie. Si malgré nos luttes pour mener une vie normale, on n'arrive pas à avoir une victoire complète sur la dépression, on ne doit pas s'alarmer. Parce que tout ce qu'on ne peut pas changer fait partie de la volonté de Dieu. Je pense que la plus grande faiblesse de beaucoup de ces livres-là qui parlent de la victoire sur la dépression, c'est d'ignorer la souveraineté de Dieu dans la vie des gens et l'œuvre de la croix, surtout. C'est quelque chose de fondamental que ces auteurs-là ne comprennent pas, souvent. Grâce au pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose, dit la Bible, Dieu désire se servir de toute souffrance, de toute situation adverse ou désagréable dans nos vies, puis les faire tourner à notre bien, c'est-à-dire pour notre plus grand avancement spirituel. Dieu se sert toujours du mal que le diable ou les gens méchants nous font pour nous enseigner les plus précieuses et les plus enrichissantes leçons. J'ai remarqué que ce que beaucoup de ces livres-là ont en commun, c'est que très souvent, ils ont été écrits par des gens qui n'ont jamais vraiment connu eux-mêmes la dépression dans leur vie. Je ne reproche pas à ces auteurs-là d'essayer de soulager la souffrance des gens dépressifs. Au contraire, je trouve qu'il n'y a pas d'action plus noble sur Terre que de soulager la souffrance. Mais on remarque que beaucoup d'auteurs regardent seulement la dépression d'un point de vue humain. Puis c'est tout. On ignore le côté souverain de Dieu. J'en suis un dépressif moi-même. J'ai fait un burn-out, puis je vais vous en parler de la dépression. Je vais vous parler surtout de ses effets positifs. Premièrement, l'état dépressif n'est pas un état aussi anormal qu'on pense. Quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, par exemple, on ne peut pas échapper à l'impression que ce livre-là a été écrit par une personne en pleine dépression. Le livre de l'Ecclésiaste nous enseigne clairement qu'il y a une relation très évidente entre la dépression et la sagesse. Ecclésiaste 1,18 nous dit « Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » Si la vie entière, avec tout ce qu'elle contient, n'est que vanité, comme dit l'Écriture, puis qu'on réalise vraiment ça, est-ce que c'est encore logique d'être aussi gai et joyeux? Hein? Il y a une certaine logique dans la dépression. Celui qui augmente sa sagesse augmente son chagrin. On dit souvent que quelqu'un de dépressif, c'est quelqu'un de négatif. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a une bonne dose de négativisme, de négatif, dans la sagesse. Il y a une grande logique et une grande sagesse dans le négativisme. Il n'y a qu'à lire l'Ecclésiaste, encore une fois, pour s'en rendre compte. Pour Salomon, qui est l'auteur du livre en question, être négatif était simplement être réaliste. On vit dans un monde où les afflictions, les déceptions, la pauvreté, la tristesse, les blessures, la maladie, la mort, la guerre règnent, mes amis. Alors les gens qui s'efforcent toujours de voir seulement le bon côté des choses dans la vie, eh bien, se ferment en fait les yeux sur la majorité des réalités qui se passent autour d'eux autres. On nous dit, eh bien oui, mais il faut être positif dans la vie, il ne faut pas regarder le mauvais côté des choses. Je m'excuse, mais l'Ecclésiaste nous dit sans cesse qu'il est au contraire sage de le faire. Ecclésiaste 7,2,4 dit, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Mieux vaut le chagrin que le rire. Le cœur des sages est dans la maison des deuils, et le cœur des insensés dans la maison de joie. » Alors, on dit que ce sont les plus mauvais médicaments qui sont les plus efficaces, puis moi je pense que la sagesse se trouve également surtout dans le côté négatif de la vie. Je pense que si on veut être honnête, on va être obligé d'admettre que Dieu nous parle bien plus souvent quand on souffre que quand on rit. Les gens positifs, qui refusent de regarder les réalités de la vie bien en face, sont un peu comme des enfants qui refusent de manger leurs légumes parce que ça goûte pas bon, hein? Mais c'est pourtant ce qui leur ferait le plus de bien. Et les gens positifs ne connaissent pas la beauté de la tristesse, ni la sagesse qu'elle pourrait leur apporter. Il y en a qui pensent que si on regarde le mauvais côté de la vie, on ne sera pas heureux. Mais c'est pas vrai. Salomon a dit qu'avec un visage triste, le cœur peut être content. Moi, je pense que cette joie spirituelle-là est bien plus vraie et bien plus sage que la joie qui provient des plaisirs de la vie. Je suis bien d'accord qu'il faut faire attention. Là. L'homme doit quand même pas regarder seulement ce qui est négatif dans la vie. Il faut aussi songer à toutes les joies que Dieu nous donne sur la terre. Il faut aussi songer à toutes les joies spirituelles qu'il y a à servir le Seigneur. La joie est un fruit de l'esprit. Il y a de la joie. Il y a la joie des bénédictions que Dieu nous accorde quand on lit les évangiles, par exemple. Quand on écoute un chant chrétien qui nous plaît. Un bon sermon qui contient des bonnes paroles et qui encourage notre foi. On peut aussi trouver de la joie en passant un bon moment à nous vider le cœur devant Dieu dans la prière. Il y a aussi la joie qu'on peut tirer d'un bon échange de points de vue là, sur ce qu'on a lu dans la Bible avec un autre croyant. Ou la joie d'avoir témoigné de notre foi à quelqu'un autour de nous autres. Il y a la joie de sentir la faveur de Dieu sur nous quand on vient de faire une bonne action. Il y a aussi la joie que nous inspire le fait que si on est croyant, ben on sait qu'on va s'en aller avec Dieu après notre mort et qu'on n'aura plus jamais à souffrir de rien. Je pense qu'on doit s'efforcer de regarder les choses négatives de la vie bien en face et en tirer instruction avec sagesse. Mais d'un coup, de notre côté, on serait stupide de négliger les joies spirituelles dont on vient de parler, puis aussi de négliger certains plaisirs de la vie quotidienne que Dieu nous donne. Il n'y a peut-être pas grand-chose de drôle dans notre vie terrestre, pour quelques-uns, là, mais il y a beaucoup de joie dans le Seigneur, par exemple, puis on ne serait pas sage de s'en priver. Un certain auteur qui voulait montrer à quel point la dépression était anormale, entre guillemets, a écrit « Quelle perte tragique d'énergie et quel gaspillage de vie ». Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça n'a pas d'allure, le pauvre dépressif qui va lire ces lignes-là va avoir envie d'aller se jeter en bas d'un pont. C'est justement ça la plus grande peur du dépressif, d'être devenu un être qui n'est plus bon à rien. L'auteur du livre en question avait l'air de dire que quand tu es dépressif, tu ne peux plus accomplir le plan que Dieu avait pour toi dans ta vie. Alors, cette façon de voir la dépression va jeter le dépressif dans une angoisse encore plus grande, évidemment. Il va se mettre à rechercher la guérison désespérément. De peur d'être condamné à vivre une vie inutile ou de vivre en dehors de la volonté de Dieu pour le restant de ses jours, ça va être sa peur. Voyez-vous ce qu'il y avait de malsain dans ces livres-là? Mais rassurez-vous tout de suite, les choses ne fonctionnent pas comme ça du tout, du tout. Dieu, qui est souverain, a prévu dès la fondation du monde que vous seriez dépressif un jour, puis craignez pas, il vous a inclus dans son plan tel que vous étiez, puis tel que vous êtes devenu maintenant. Soyez absolument sûr de ça. La volonté parfaite de Dieu, c'est de vous employer dans la vie avec la force que vous avez présentement, pas avec la force imaginaire que vous auriez si vous n'auriez pas fait de dépression. Je vous ai dit que j'étais dépressif tantôt. À un moment donné, je me suis levé de mon lit un matin avec beaucoup de mélancolie sur le cœur, en pensant à quand j'étais plus jeune et plus fort. Je me suis trouvé un coin pour prier à la campagne tout seul. Je priais et j'avais le cœur gros. Je me disais, Seigneur, c'est tellement triste pour moi de réaliser que je suis plus ce que j'étais. J'ai vieilli. Avant mon temps, j'ai perdu beaucoup de courage puis de force à travers les choses que j'ai vécues. J'ai plus la moitié de la capacité que j'avais il y a quelques années seulement. Je suis plus capable de faire autant de choses que je faisais avant. Puis je suis même plus capable d'accomplir les projets que j'avais. J'ai plus la force d'être ce que je voudrais être, puis de faire ce que je voudrais faire. Alors, le Seigneur m'a dit, premièrement, qu'il ne m'avait jamais fait de reproche pour ça. Hein? C'est juste moi qui m'en faisais moi-même, là. Puis, il m'a fait comprendre que le fait de perdre des plumes dans la vie, ça faisait partie de l'expérience humaine. Il n'y avait rien d'anormal là-dedans. Il m'a fait réaliser que s'il y avait des choses que je faisais quand j'étais plus jeune, puis que je n'étais plus capable de faire aujourd'hui, par contre, il y avait un paquet de choses que je comprenais aujourd'hui, que je n'étais pas capable de comprendre quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, comme tous les jeunes chrétiens, j'avais peut-être beaucoup de zèle puis beaucoup de force, mais pas beaucoup d'intelligence pour aller avec. Hein? Dieu nous fait ralentir pour nous rendre moins superficiels. Alors les choses qu'on considère comme des pertes peuvent être des gains dans le royaume de Dieu. Très souvent, c'est le cas. C'est dur pour l'orgueil d'être réduit à la faiblesse. C'est pour ça qu'on lutte tant contre la dépression, je pense. Alors acceptons les épreuves humiliantes parce que c'est par elles que Dieu nous rend plus sages, plus profonds et plus saints. Le plan de Dieu n'est pas infirmé quand ses serviteurs sont devenus faibles ou qui sont imparfaits. Le plan parfait de Dieu a été conçu pour fonctionner avec des gens imparfaits et faibles, qu'on est tous dans le fond. Alors, faites pas de névrose, de culpabilité si vous êtes dépressif parce que vous êtes parce que vous n'avez pas l'efficacité que les autres semblent avoir ou pensent avoir, parce que tout ça, c'est bien relatif dans le Seigneur. Quand on est plus faible, Dieu nous demande des choses plus petites. Ce qui ne veut pas dire que ces choses-là ont moins de valeur à ses yeux. L'histoire montre que tout petit geste ou que toute petite parole ont changé des choses énormes des fois. C'est l'apôtre Paul qui faisait remarquer à l'église de Corinthe, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de puissants. Mais Dieu choisit les choses faibles. » 1 Corinthiens 2:26. Des fois, Dieu utilise la force, oui, mais il n'y en a pas besoin. Dieu peut faire davantage avec la faiblesse du faible. Le faible agit moins, mais il est plus sage, donc plus efficace. Quand une personne a beaucoup de morale, beaucoup de force, eh bien, ça va naturellement l'amener à faire beaucoup de choses aussi. Il veut se dépenser. Mais l'Ecclésiaste a écrit, « S'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. » C'est un principe qu'on peut appliquer un peu partout, dans toutes les choses qu'on fait dans notre vie. Beaucoup de croyants font des choses que Dieu leur a jamais demandées. Hein? Poussés par leur propre tempérament, ils partent souvent de leur propre chef, dans toutes sortes d'œuvres, en espérant que Dieu bénisse leur entreprise, alors qu'il les a jamais vraiment envoyés. Moi, je me dis à quoi ça sert de tant travailler si Dieu n'est pas avec toi. À quoi que ça sert ta force, sinon à perdre ton temps. Moi, quand je me suis mis à vieillir un peu, la force de caractère qui avait accompagné ma belle jeunesse a commencé à disparaître aussi. Maintenant, il y a bien des choses que les gens autour de moi dans l'Église aimeraient me voir faire, beaucoup de choses auxquelles ils aimeraient que je participe. Mais j'ai réalisé que dans mon état, de la force, j'en avais plus à gaspiller. Alors aujourd'hui, je ménage mes forces pour les choses dont je suis à peu près sûr là, que Dieu me demande. Voyez-vous, ma faiblesse m'oblige à ne faire que la volonté de Dieu dans ma vie, ou m'efforcer en tout cas de ne faire que ça. Je suis obligé de travailler uniquement là où Dieu me donne une grâce évidente, parce que j'ai plus la force, comme quand j'étais plus jeune, de travailler là où la grâce de Dieu n'était pas là pour me soutenir, Alors quand on y songe, la dépression a effectué un brisement positif dans ma vie, puis ça peut être votre expérience, ça va sûrement être votre expérience aussi, si vous le comprenez bien. Parmi les choses négatives, entre guillemets, qui a produit la dépression, un auteur a écrit, « Les gens atteints de dépression perdent souvent confiance en leur habileté. » Fin de citation. Mais pour un chrétien, ce n'est pas nécessairement mauvais, ça non plus, vous savez. La sagesse est souvent là où on ne s'attend pas de la trouver. Songez-y un peu. Perdre confiance en ses habiletés, est-ce que ce n'est pas là que le Seigneur veut nous amener tous? Tant qu'on ne sent pas notre besoin de Dieu dans tous les domaines de notre vie, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Hein? On y va par notre propre force, puis on fait ou on dit des bêtises. C'est la pure vérité. Mais la perte de confiance en nous-mêmes nous porte à nous appuyer sur Dieu toujours de plus en plus. Alors c'est positif. En disant à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », est-ce que Jésus n'était pas justement en train de faire exactement ça? Les amener à cesser, à se confier en eux-mêmes? À leur enlever cette confiance en leur habileté? Afin qu'ils puissent servir Dieu plus efficacement? On voit tout au long de l'Évangile que l'apôtre Pierre, par exemple, était un homme qui se sentait très fort dans la foi. « Jamais je vais t'abandonner, Seigneur, jamais je vais te renier, je suis prêt à mourir pour toi. » Vous vous souvenez de l'histoire, hein? Dieu l'a fait passer par une situation qui a brisé cette confiance en lui-même là. Quand notre Pierre a vu qu'il avait renié le Seigneur 3 fois en 2 minutes, il a réalisé combien il était faible. Puis le brisement de sa confiance en lui-même a été une grande étape dans sa vie spirituelle, pas une perte. Il n'y a rien de mal à perdre confiance en ses capacités, si ça nous porte à nous confier en celle de Dieu, évidemment. Perdre confiance en ses propres capacités va justement amener le croyant à aller s'asseoir aux pieds de Jésus, puis à devenir plus sage, donc plus fort dans le Seigneur. En 2 Corinthiens 4, 7 à 11, Paul explique l'œuvre de brisement que Dieu essaie d'accomplir à travers toutes les pressions de la vie. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, ou dépressifs, selon une autre traduction, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée. Alors le brisement de la confiance en soi-même est une des leçons les plus importantes que Dieu peut nous apprendre, mais que très peu de croyants, à part ceux qui ont fait des burn-out, réussissent à apprendre souvent. On ne reconnaît pas la main de Dieu avant ça. Je crois que beaucoup d'auteurs chrétiens qui écrivent à propos de la dépression sont très influencés par la psychologie. Mais moi, je pense qu'il faut faire bien attention aux valeurs que la psychologie moderne a essayé de nous passer. Je ne condamne pas en bloc les découvertes de la psychologie. Je sais que la psychologie a apporté beaucoup de réponses et fait du bien à beaucoup de gens. Dans certains cas, il y a des psychologues qui ont été de meilleurs pasteurs que les pasteurs eux-mêmes envers les gens. Ils ont été plus humains et plus compréhensifs, mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des croyants qui ont inventé la psychologie. En fait, la plupart des psychologues ne comprennent pas le christianisme biblique, puis dans bien des cas, ils l'ont carrément rejeté. Alors, toute la doctrine de la croix de Christ, puis de l'œuvre de brisement que Dieu fait dans la vie du croyant, tout ce principe-là de mort à soi-même et de résurrection spirituelle en Jésus-Christ est totalement inconnu à la psychologie moderne. Cette doctrine-là est pourtant la base même du christianisme évangélique tout entier. C'est ce qui leur fait voir les choses avec les yeux des hommes, et non avec les yeux de Dieu. C'est ce manque de connaissances-là qui les égare. Alors, sachons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil à l'intérieur de la psychologie d'aujourd'hui. L'être humain a toujours cherché des chemins pour se sauver de la souffrance sous toutes les formes, puis dans bien des cas, la psychologie a juste été un autre des moyens que l'homme a développé pour sauver sa propre vie, justement, puis d'essayer de trouver le bonheur sans Dieu. Alors attention. La maladie est une mort lente. La dépression est également une sorte de mort. Mais on est sur la terre pour mourir, pas vrai? Puis même en essayant de nier ou de sauver de ça, on va tout passer par là quand même. La mort fait partie du christianisme parce que la mort fait partie de la vie. Mais réjouissons-nous parce que ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu se sert de toutes ces choses laides-là, puis qu'il en fait quelque chose de beau pour lui. En tout cas, il peut le faire. Je veux faire une parenthèse ici. Si Dieu se sert de la souffrance-là, est-ce qu'on fait bien de chercher à la fuir par des médicaments? Je pense que quand on souffre, on ne devrait jamais perdre la foi dans le fait que Dieu est en train d'accomplir quelque chose de sanctifiant en nous autres, même si on ne la comprend pas sur le moment. Deuxièmement, je pense que c'est aussi Dieu qui permet à la science de découvrir des médicaments qui permettent de soulager la souffrance. Il n'y a pas vraiment de contradiction, vous allez comprendre. La Bible dit, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Ailleurs, la Bible dit, il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Job 5, 18. Comprenez-vous l'idée? Dieu ne veut pas nous épargner toute souffrance, mais il ne veut pas non plus nous laisser sans consolation et sans soulagement au milieu d'elle non plus. Alors, si vous avez besoin de prendre des médicaments, mais prenez-en. Personnellement, je ne suis pas obligé de prendre des médicaments très forts pour la dépression, mais je ne condamne pas du tout ceux qui sont obligés d'en prendre pour de vrai régulièrement, j'en connais. Il y en a qui voient un chrétien qui prend des médicaments comme ça, puis qui sont tous scandalisés, puis qui disent, voyons donc, tu n'as pas besoin de ça, tu as le Seigneur. Où c'est qu'elle est ta foi? Arrête de prendre ça. Hein? Je vous dis qu'il ne faut pas connaître grand-chose pour parler de même. Dis-moi donc, pourquoi tu portes des lunettes, toi, si tu as tant de foi que ça? Jésus a guéri des aveugles. Pourquoi tu ne te mets pas ta foi dans le Seigneur qui guérisse ta vue? Hein? Moi, je trouve ça ridicule que tant de croyants pensent qu'être dépressif, c'est un état normal pour un chrétien. Puis d'essayer de leur faire croire qu'ils sont quasiment en train de vivre en état de péché parce qu'ils sont dépressifs ou parce qu'ils prennent des médicaments pour se sentir un peu mieux. Les médicaments aident à soulager le dépressif du fardeau moral qui l'accable. Il n'y a rien de mal là-dedans. Au lieu de critiquer le dépressif, demandez-vous donc si vous avez rempli vos devoirs envers lui dans le passé. Hein? Selon l'Écriture qui dit de porter les fardeaux les uns des autres. Si les chrétiens autour de lui avaient fait leur job dans ce sens-là quand c'était le temps, ils n'en seraient peut-être pas rendus là aujourd'hui. Alors, en conclusion de tout ce qu'on vient de dire, en tant que croyant, là, moi je dis, soyons pas trop rapides à fuir les croix dans notre vie, parce que c'est le seul endroit où on va pouvoir enfin trouver la vraie spiritualité, la vraie sagesse puis la vraie sainteté. En même temps qu'on essaie de sortir de l'adversité, ne négligeons pas de reconnaître et de discerner aussi l'enseignement de Dieu. En d'autres mots, quand Dieu permet qu'on tombe dans le fond d'un trou, mes amis, c'est parce qu'on a quelque chose à apprendre dans le fond de ce trou-là.